Grand Angle.
Grand Angle sur Radio Orient. En Cisjordanie occupée, les violences commises par les colons israéliens atteignent un rythme record avec en moyenne 6 attaques par jour, faisant des victimes ou causant des dommages selon l'ONU. Les colons bénéficient du soutien actif du gouvernement israélien et la colonisation, qui est illégale au regard du droit international, s'intensifie à un rythme historique avec le projet E1 notamment autour de Jérusalem, mais aussi avec le retour des colonies qui avaient été évacuées en 2005. Pour les Palestiniens, les violences se multiplient, mais aussi les restrictions de mouvement dans ce territoire morcelé. La situation humanitaire est critique. Pour en parler, notre invitée est Elsa Sovtik, adjointe à la direction des opérations auprès de l'ONG Première Urgence Internationale. Bonjour.
Bonjour.
Quelles sont les activités développées par Première Urgence Internationale? Où êtes-vous implantée en Cisjordanie?
Oui, bien sûr. Première Urgence Internationale, elle est présente en Palestine depuis plus de 20 ans et notamment en Cisjordanie occupée. L'essentiel de nos activités, en fait, c'est de suivre la violence des colons et de pouvoir répondre dans les premières heures ou les premiers jours suivant les attaques des colons aux besoins des populations palestiniennes attaquées. Donc ce projet est vraiment, depuis une dizaine d'années, suit chaque jour, si vous voulez, les attaques des colons sur les villages palestiniens et déploie des équipes sur la réponse en santé mentale, en soutien également économique pour pouvoir relancer une activité après avoir, par exemple, perdu ses oliviers ou avoir vu sa maison être détruite par les colons. Ça peut être également un premier secours santé puisque la situation d'encerclement des villages fait que certains villages n'ont plus du tout accès à la santé.
À travers des cliniques mobiles, par exemple?
Voilà, ce sont des équipes mobiles qui se déploient et qui forment aussi et qui équipent les villages de matériel de premier secours pour pouvoir réaliser les premiers soins s'il y en a besoin.
Dans combien de villes vous êtes implantée de manière permanente?
Donc on a des bureaux permanents à Ramallah, à Naplouse et à Hébron, et on a également un bureau à Gaza.
Et comment Première Urgence Internationale gère l'augmentation des restrictions de déplacement notamment? Est-ce qu'il est plus difficile pour vos employés de travailler aujourd'hui?
Oui, la situation elle est évidemment de plus en plus complexe et c'est vrai que la situation du siège de Kousra a énormément mis ça en lumière. Mais pour être tout à fait honnête et transparente, c'est une situation qui n'est pas nouvelle. C'est une situation qui perdure depuis 1967 évidemment, mais avec un pic de violence depuis 2021 et une augmentation drastique des attaques depuis le 7 octobre 2023. Donc les restrictions de mouvement des ONG et de manière générale des Palestiniens, elle n'est pas récente et donc nous ça fait complètement partie de notre façon de répondre. On est malheureusement habitué à ces restrictions et on essaye de faire au mieux. C'est vraiment une situation extrêmement complexe, elle est unique au monde et notre projet est censé rayonner dans l'ensemble de la Cisjordanie et il est vrai que on peut être bloqué des heures entières à des checkpoints, ne pas atteindre nos communautés, les communautés que nous supportons, et puis surtout même quand on les atteint, on est nous-mêmes victimes d'attaques des colons sous l'acceptation de l'armée israélienne, donc ça complique énormément notre travail. On peut avoir parfois plusieurs jours ou plusieurs semaines où on n'a pas du tout accès à nos communautés soutenues de manière physique. Alors heureusement, on a encore accès au moins en ligne pour pouvoir au moins faire du suivi aussi psychologique, du suivi de la situation, de pouvoir documenter la situation. Mais on fait face à un énorme problème d'accès. Par ailleurs, on a aussi été sous la coupe du désenregistrement par les autorités israéliennes depuis maintenant 9 mois. Donc officiellement, nous sommes autorisés à travailler parce que nous sommes toujours enregistrés auprès de l'autorité palestinienne, mais les autorités israéliennes nous ont désenregistrés et donc considèrent que nous n'avons pas à faire notre travail. Ça a fait l'objet d'une campagne toute l'année 2025 de décrédibilisation des ONG. Donc c'était essentiellement par rapport à notre travail à Gaza et probablement lié à notre capacité de témoigner, hein, puisque les journalistes internationaux étant non autorisés à rentrer à Gaza et puis depuis quelque temps, on voit aussi les mêmes restrictions s'appliquer sur la Cisjordanie. Les humanitaires aux côtés des journalistes palestiniens sont les derniers remparts du fait, de la vérité, d'expliquer ce qui se passe. Donc il y a eu une attention particulière des autorités israéliennes sur la présence des ONG. Et puis l'argument principal qui a été donné, c'est que nous refusons de donner la liste de nos collaborateurs palestiniens et palestiniennes aux autorités israéliennes, pour des mesures évidemment qui sont de l'ordre du respect de la vie privée, de réglementation européenne en matière de protection des données, et puis de principes humanitaires de ne pas donner les données de civils à des belligérants.
Et c'est un problème auquel d'autres ONG ont aussi fait face, comme Médecins sans frontières, ils en avaient beaucoup parlé. Elsa Sovtik, vous l'avez évoqué, le village de Kousra est assiégé par une poignée de colons depuis plusieurs jours. Les habitants palestiniens sont coupés du reste de la Cisjordanie. Est-ce que vous suivez la situation sur place? Est-ce que vous avez un lien avec les habitants?
Oui, bien sûr, on suit la situation sur place. Kousra, c'est un des villages que nous avons déjà servi dans la réponse humanitaire ces dernières années. On suit malheureusement aujourd'hui de manière distancielle parce que nous n'avons pas accès à la zone. C'est important de continuer à parler de Kousra et de peut-être en faire le village symbole, mais c'est vraiment très 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 important de comprendre que c'est la réalité des Palestiniens et des Palestiniennes. C'est le quotidien. C'est évidemment, là, c'est très visuel sur Kousra, mais c'est vraiment le quotidien des Palestiniens. Il faut bien avoir en tête que chaque village palestinien de la Cisjordanie occupée est encerclé par des barrières, des murs ou des checkpoints qui soient tenus par des colons ou par les militaires israéliens et qui empêchent complètement la libre circulation des populations. Et quand on dit libre circulation, c'est pas pour... Il faut vraiment avoir en tête que ça veut dire on ne peut pas avoir accès à un centre de santé, on ne peut pas avoir accès à un hôpital en urgence, on peut être bloqué à un checkpoint pendant des heures, et on a vu le cas dramatique d'une femme qui a perdu son bébé parce qu'elle est restée trop longtemps dans l'ambulance coincée à un checkpoint. Donc il y a vraiment un enjeu de vie, c'est pas simplement une histoire de pouvoir aller d'un point A à un point B, c'est pouvoir survivre en Palestine aujourd'hui. Et donc en fait le siège de Kousra, il est le représentant de tout ce qui se passe tous les jours dans quasiment tous les villages palestiniens.
Un sujet très sensible. En avril dernier, Première Urgence Internationale a publié un article sur le thème des violences sexuelles en Cisjordanie. Les colons utilisent les violences sexuelles pour accélérer les déplacements forcés. Comment avez-vous mené cette enquête? Comment êtes-vous arrivé à ces conclusions?
Oui, c'est un sujet extrêmement sensible. Je tiens à préciser que ce n'est pas une enquête qui a été menée par Première Urgence Internationale seule. On était un collectif d'organisations. Nous, on avait décidé de le publier en France parce que on trouve que c'est un sujet qui est malheureusement pas du tout suffisamment mis en avant. Il est très difficile à aborder aussi en Palestine. Donc, on remercie les personnes qui ont accepté de témoigner pour pouvoir nourrir cette enquête, mais effectivement ce que l'on constate, c'est que les pressions qui sont exercées par les colons sur les familles, et notamment sur les femmes et les filles des familles de Palestiniens dans les villages qui sont attaqués, sont un énorme facteur de choix de déplacement de la part de ces populations. Donc d'utiliser les menaces, mais aussi les passages à l'acte, qu'ils soient de l'ordre de l'attouchement ou d'aller jusqu'au viol, et qu'il concerne également les garçons. C'est un sujet extrêmement sensible aussi d'un point de vue culturel d'aborder ces sujets-là. Ça fait partie de la pratique de l'humiliation que veulent exercer les colons sur la population palestinienne, à l'image de ce qu'on a pu constater dans les collègues d'Amnesty International ou des ONG de droits humains qui publient des rapports sur la violence dans les prisons, par exemple, à l'égard des prisonniers palestiniens de la part des geôliers israéliens. Donc on a vraiment tout un système d'oppression qui utilise la violence sexuelle comme un moyen de pression et comme une forme supplémentaire d'humiliation.
Alors les violences des dernières semaines ont provoqué des réactions à l'international. Le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, a indiqué que des possibles sanctions pourraient être prises contre des colons et leur soutien à l'échelle européenne. Quel est votre regard face à ces réactions au niveau international ?
Bah, comme je vous le disais, c'est pas quelque chose qui est nouveau et nous on travaille sur le sujet depuis 15 ans, donc on trouve que c'est tardif comme réaction au vu de la violence quotidienne et permanente et l'impunité surtout de ces colons. C'est la moindre des choses de pouvoir avoir la communauté internationale qui réagit, mais il faut des réactions, c'est pas que des réactions dont on a besoin. Malheureusement, je peux pas aller commenter plus loin que ça en tant qu'humanitaire, mais la situation nous impose de ne pas nous taire, de continuer à défendre les droits des Palestiniens à exister, à vivre dans la justice et dans la paix. Je ne sais plus ce qu'il faut dire, ce dont il faut témoigner pour qu'on ait des réactions à la hauteur de ce qui est en train de se jouer.
Merci à vous, Elsa Sovtik, adjointe à la direction des opérations auprès de l'ONG Première Urgence Internationale.
Merci.
Et merci à vous de nous avoir suivis sur Radio Orient. Vous pouvez retrouver cette émission sur notre site ou sur Spotify.
C'était Grand Angle.